بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي شفران إسلام نغميسي الله عز وجل qui nous donne la possibilité de nous réunir de nouveau après le mois béni de Ramadan dans ces majlis, dans ces assemblées mubarak, dans ces assemblées bénies, ces assemblées qui sont recherchées par les malaïka, parce que c'est une assemblée où les gens se réunissent uniquement pour apprendre le livre d'Allah Azza wa Jal, comprendre le livre d'Allah Azza wa Jal, afin d'appliquer les ordres d'Allah Rabbul Izza dans notre vie. Les ulama rahimahumullah disent qu'il n'y a pas meilleure assemblée que celle où les personnes se réunissent pour kalamullah, pour la parole d'Allah Azza wa Jal. Et il n'y a rien de plus authentique, c'est un rappel. Je pense qu'on le dit à chaque reprise, mais c'est bimbab targhib, pour qu'on soit tous persuadés, et je pense qu'on est persuadés, et surtout pour qu'on soit reconnaissant. Moi en premier, qu'Allah Rabbul Izzah donne la possibilité d'ouvrir un livre de tafsir, d'étudier et essayer de propager avec nos manquements, mais également pour les moustami'in, ceux qui écoutent, qu'ils essaient de se projeter, subhanallah, 14 siècles avant, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam se réunissait avec les sahaba, les nouveaux sahaba, radiallahu anhum ajma'in, dans cette première madrasa qui s'appelait Dar al-Arqam, Ibn al-Arqam, radiallahu anhum, qui était à Makkatul Mukarrama. La première médersa, la première école de l'islam, où le prophète alayhi salatu wassalam réunissait les sahaba en secret pour leur expliquer quels étaient les derniers versets qu'Allah azza wa jal lui avait révélés. Et ça, c'est le travail de tablir. Ya ayyuha rasoulu balligh ma unzila ilayka min rabbik. Et c'est là la mission de tous les prophètes, alayhimu salatu wassalam, tablir ur-risala. Quand on parle de tablir ur-risala, al-asl, ce qu'il y a de plus pur, de plus original, de plus, subhanallah, de plus rempli de bénédiction, de munawwar, j'allais dire, celui qui contient le plus de nour, c'est de transmettre le wahyu min Allah, de transmettre la révélation qu'Allah Azza wa Jal a envoyée sur un de ses prophètes. Et d'autant plus quand il s'agit du Qur'an, kalamullah, et kalamullah qui est mahfouz, qui est protégé jusqu'à la fin des temps, est révélé sur le meilleur des hommes, al-Nabi, Muhammad alayhi afdalu salah wa tammu taslim. On peut se considérer comme étant chanceux, comme étant favorisé de la part de notre Seigneur, d'avoir donc la possibilité d'écouter la parole d'Allah et d'essayer de comprendre. Parce que sans le moindre doute, on ne pourra jamais comprendre l'intégralité de la parole d'Allah Azza wa Jal. Et les grands mufassirin, rahimahumullah, ils expliquent qu'un même verset, étudié par différents commentateurs du Coran, ils vont extraire différentes ahkam, différentes leçons spirituelles, différentes leçons de sagesse. Et le même mufassir, si on reste par exemple avec Ibn Kathir, ou Al-Baydawi, ou Al-Zamakhshari, ou quel que soit le mufassir, Qurtubi, il prend un même verset et il va l'étudier de nouveau. Quelques temps après, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans après, subhanallah, ce qu'il va extraire, bi'idhnillah, on appelle ça istinbat, ce qu'il va extraire des versets sera encore plus riche. Parce que plus la personne avance, plus la personne, il va créer un cheminement vers Allah Azza wa Jal, plus la personne va se renforcer sur le plan spirituel, Allah Azza wa Jal va donner à cette personne la possibilité de comprendre la parole d'Allah. C'est ce qu'on appelle at-tafaqquh fi d-din. Et qui peut me donner le nom de celui qui avait reçu par excellence le doua du prophète alayhi salatu wassalam d'avoir la compréhension parfaite du livre d'Allah Azza wa Jal? Il s'appelait Ibn Abbas radiallahu anhuma. Ibn Abbas radiallahu anhuma qui avait l'âge du prophète sallam ou bien plus âgé que lui. Beaucoup plus petit, subhanallah, lors du pèlerinage d'adieu, il était tout juste baligh, c'est-à-dire 14 ou 15 ans maximum. Et du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu ce doua, Allahumma faqqihhu fi d-din. Oh Allah, accorde-lui le tafaqquh, la compréhension idrak kamil, personne qui a une vision globale, une compréhension de la religion. Et le deuxième dua, wa'allimhu ilma ta'wil, où Allah enseigne lui, donne lui la compréhension du ta'wil. Et à l'origine, ta'wil, c'est synonyme de tafsir, la compréhension des versets. Ce qui veut que Ibn Abbas a été surnommé comment? Hablul Umma, la corde, le lien de la Umma, parce qu'il avait une compréhension parfaite. Et la personne, comme Ibn Abbas, qui avait une compréhension parfaite de la parole d'Allah, on peut dire que là, cette personne a plus de valeur que celui qui était, par exemple, qui avait, par exemple, une compréhension parfaite du miraf, de l'héritage ou d'autres sciences. Parce que comprendre le livre d'Allah et pouvoir le transmettre, ça c'est tasalsul, c'est assurer la propagation du wahi. La propagation du wahi, ça se fait par les biais de des masahif, des ouvrages qu'on écrit, le Coran, quel que soit le support. Ça peut être un iPad, ça peut être quelque chose qui n'est pas forcément en format papier, mais qui permet de transmettre le Coran par écrit, visuel, audio. Mais la protection du Coran, ce n'est pas uniquement ça, c'est la protection du sens des versets. Jamais une personne ne pourra venir et vous faire un tafsir complètement erroné et qui soit accepté du monde musulman, abadan. Parce que Allah Azza wa Jal a donné à cette umma des ulama, des savants. Quand on dit des savants, ce n'est pas nous. Nous, on est des... C'est la 180 millième photocopie. Donc, en finalité, il ne reste plus grand-chose. Quand je dis des savants, c'est ashab al-Qur'an. Comment ? Les apprentis. En français, c'est pas peut-être en mauricien, les très péjoratifs. Hein? Les apprentis avec un Z à vérifier. Subhanallah, lorsqu'on parle des grands savants, c'est ulama al-Qur'an al-Mufaddala. Qu'est-ce qu'on appelle le Qur'an al-Mufaddala ? C'est les trois... On pourrait dire les trois précieuses. C'est les trois siècles importants pour la Ummah. Khayrul Quruni Qarni. L'époque du Prophète Sallallahu Alaihi Wasallam, les Sahaba. Intouchable. Thumma alladhina yalunahum. Ceux qui viennent juste après. C'est les Tabi'in. Thumma alladhina yalunahum. Atba'i Tabi'in. C'est dans cette époque qu'il y a eu les plus grands savants de l'histoire de l'islam. Et ensuite, plus on se rapproche du Wahi, de la période de la révélation, plus on trouvera des savants, subhanallah, véritablement, warathatul anbiya, héritier de la prophétie, héritier du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on va retrouver ces grands mufassirines qui ont, subhanallah, qui ont une lecture correcte, parfaite du Coran, et qui ont su, bi'idhnillah, nous transmettre l'interprétation, le ta'wil, ta'wil qu'ils n'ont pas inventé. On ne va pas refaire l'histoire du tafsir, l'introduction, mais vous savez qu'il y a différents tafsirs. Il y a tafsir al-Qur'an bil-Qur'an. On commente le Qur'an par le Qur'an. Ça c'est high level, le plus haut niveau. Mais c'est la base de tous les mufassirines. Celui qui est considéré comme mufassir, on prend Ibn Kathir, Baytawi, Zamakhshari, Qurtubi, et tous ceux qu'on a cités, Shawkani, même des certains qui sont plus récents, des contemporains comme Sa'di, excellent tafsir, Tafsir al-Karim al-Rahman, qui n'existe pas en français malheureusement, et qui a un langage beaucoup plus accessible à notre époque. Donc, bref, celui qui est mufassir à la base doit maîtriser Tafsir al-Qur'an bil-Qur'an. C'est-à-dire qu'il y a un verset, il doit être capable d'expliquer par le biais d'un autre verset qui va dans le même sens. Et cela implique une connaissance parfaite de ce qu'on appelle également An-Nasikh wal-Mansukh, les versets abrogés, les versets qui ont été révélés avant, d'autres qui sont venus après, qui vont recadrer, préciser l'ordre. Donc ça implique, subhanallah, une connaissance, j'allais dire, quasiment parfaite de la révélation, de la sira également. Parce qu'il y a le facteur temporel, Makki, Madani, être capable de définir est-ce que ce verset était descendu, révélé à l'époque de Makkah ou Madina, parce que ce sont des ahkam différents. Et bien sûr, les versets de Madina, ils sont plus précis, parce qu'ils sont venus après, en fonction des circonstances. Donc, ces mufassirines, ils avaient eu ce ilm, ils pouvaient commenter les versets par les versets. Également, commenter les versets par le biais des ahadiths. Ce qui implique une connaissance, subhanallah, j'allais dire monstrueuse, massive des hadiths. Pas comme nous, si on demande combien de hadiths vous mémorisez. Il y en a qui vont dire, je connais les 40. Au moins, un croyant doit connaître 40 hadiths. Sinon, c'est problématique. D'accord ? Si je te demande, donne-moi le nom de 40 joueurs de la Ligue 1. ou de First League ou de Bundesliga. Subhanallah musta'an, la plupart des jeunes ils savent, ils vont vous étonner. 40 hadiths, c'est le minimum pour un croyant. Celui qui ne connaît pas 40 hadiths, qu'il ne se couche pas ce soir. Sans faire le niya, pas en apprenant 40, sans faire l'intention, comment je réactualise ma connaissance. 40 hadiths, c'est le quota minimum pour un mu'min. Bref. Et donc, il savait commenter les ayahs par les hadiths également. Et ensuite, il y avait les aqwal des tabi'in, atba'i tabi'in. Il reprenait l'opinion des grands savants des époques qu'on a dit. Ça, c'est le troisième niveau. Ensuite, il peut y avoir le tafsir par le ma'na, bil ma'na. Quand on dit parfois tafsir bil ra'y, d'accord ? Une compréhension, une déduction directe. Mais le tafsir ne se base pas sur la déduction des hommes, là, wallah. Autrement, celui qui est dans telle région du monde, telle région, telle époque, il va vous tirer des tafsirs farfelus, comme lui comprend. Et les tafsirs farfelus, parfois, on en voit à notre époque. C'est un qui change le sens des ayahs, qui décide que, voilà, à notre époque, tel ayah, on peut réviser. N'a'oudhu billah, c'est ce genre de ra'y qui ne s'appuie sur aucun pieux prédécesseur, on ne peut pas l'accepter. Donc, min karamillahi ala hadhihi al-umma, parmi les bienfaits qu'Allah nous a accordés, en plus d'avoir un livre protégé, mahfouz, où personne ne pourra changer un haraka, une lettre, un harf, en plus, le ma'na est protégé. Les muslimines, les croyants, ne seront jamais égarés par leurs livres. Je reprends, les personnes de cette umma ne seront jamais égarées par leurs livres. Ça paraît ambigu comme phrase, mais il y a un sens. Par opposition aux ahlé kitab, qui suivent leurs livres, qui essaient de suivre leurs livres, mais fil asl, à la base, il y a eu tahrif, il y a eu falsification, ce qui fait que même celui qui suit à la lettre leur révélation, il ne trouvera pas le haqq, la vérité. Et il n'y a pas plus grande détresse spirituelle. Waouh ! Ça fait mal au cœur. Quand on connaît des gens qui s'investissent dans leur religion, matin et soir, mais on peut dire qu'il n'y a pas plus grande détresse spirituelle que de n'avoir aucun support authentique. Et que même si tu t'accroches matin et soir au livre que tu prétends être un livre divin, ce qu'il en reste, et que tu appliques depuis la première lettre de la première page jusqu'à la dernière lettre de la dernière page, cette ferveur et cette, en guillemets, piété ne pourra jamais te faire approcher du Jannah d'un pas. Allah musta'an. Alors que nos mu'minin, il suffit, subhanallah, mettez en pratique, qul huwallahu ahad, vous avez Jannah. Mettez en pratique, idha ja'a nasrullahi wal fath, dans chaque ayah, dans chaque, subhanallah, portion de phrase de ayah, il y a une sagesse divine et il y a une guidée, un hidayah pour l'être humain. Et pour qu'on ait la hidayah kamila, complète, pour atteindre le plus haut degré du iman, il faut être capable de mettre le Coran en entier dans notre vie. Celui qui a compris le tafsir des 10 surahs, Alam Tara, Al-Fil, Al-Fatiha inclus, on va dire que mashallah, il a un potentiel de nour, de ilm et de compréhension de la religion qui va lui permettre de bien avancer, qui va lui permettre de trouver la force spirituelle pour faire les bonnes œuvres, qui va lui permettre également de trouver la force, la résistance face aux tentations de Shaytan. Celui qui connaît la moitié du juz amma, il comprend, je veux dire, pas connaître par cœur, celui qui a étudié, qui a compris et qui arrive à mettre en pratique dans sa vie la moitié du juz amma, subhanallah, il a plus de nour. Celui qui connaît juz amma, le tafsir, encore plus. Et au fur et à mesure, plus on connaît les versets du Coran, on comprend le sens et on est capable d'appliquer chaque ordre d'Allah Azza wa Jal émanant des versets dans notre vie, subhanallah, ala qadri ilmika bi ta'wil al-Quran, en fonction du quota de ta compréhension, de ta connaissance, de ton application des versets, on va voir izdiyad de l'iman, augmentation de la foi et compréhension saine du din. C'est pour ça que le prophète m'a dit taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu abada kitabullahi wa sunnati. Je vous ai laissé deux choses. In tamassaktum, le prophète n'a pas dit in tabatum, non, ou darastum, ou tabaktum. Le prophète aurait pu utiliser d'autres verbes. Si vous suivez, si vous appliquez, si vous mettez en pratique, le prophète a utilisé un terme, et qui n'est pas un terme hasardeux, intamassaktum. Si vous vous y accrochez, si vous accrochez sans lâcher, si vous accrochez kitabullah et sunnati, si vous y accrochez, vous ne serez jamais égaré. La parole d'Allah, c'est le Coran, et ma parole, la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hada. Donc ça c'est nour min Allah, et ça c'est fadrum min Allah, que d'avoir la possibilité d'apprendre, même si c'est 3, 4 versets, même si c'est une fois par semaine, mais on va dire que c'est mieux que rien. Et c'est déjà là une faveur de la part d'Allah Azza wa Jal. Nous demandons à Allah Rabbul Izzah l'ikhlas, la sincérité de cette reprise, et istiqama, la fermeté, d'accord, qu'on soit régulier. Bon, là, après Ramadan, il y a eu les vacances, après il y a eu des périodes un peu mouvementées avec le Hajj, le début du Hajj, et ainsi de suite. Maintenant, Inch'Allah, on est là, qu'Allah Azza wa Jal nous facilite, donne la possibilité donc de reprendre. Juste pour revenir au hadith, qu'il y a quelque chose qui me revient au moment que je vous dis, s'accrocher à la parole d'Allah et à la sunnah, ben, le fait que le croyant donne considération tant au Coran et à la sunnah, c'est là également une guidée de la part d'Allah Azza wa Jal. Quand le prophète alayhi salat wa salam nous a annoncé quelque chose que les sahaba avaient du mal à réaliser, c'est une prophétie, mu'ajiza. Mu'ajiza, ça peut être quelque chose de palpable, de visuel. La lune qui se fait en deux, c'est mu'ajiza. Mu'ajiza, ça peut être également quelque chose que le prophète annonce. Viendra une époque où vous allez voir telle chose. Et que les sahaba, à l'époque où le prophète dit cette parole, se disent, comment est-ce possible que cette ummah, ceux qui disent la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, à une époque ils feront tel péché ou ils auront un tel comportement. Mais madame, tant que c'est le prophète qui le dit, ils ont yaqin, conviction. Ils demandent protection contre cette situation, que cela n'intervienne pas chez eux ou chez leurs enfants ou leurs petits-enfants. Donc min jumla, parmi tout ce que le prophète alayhi salat wa salam avait annoncé à son époque concernant les fitnas de la fin des temps, le prophète alayhi salat wa salam avait annoncé que à une époque viendra des gens qui vont dire hadha kitabullah, hadith, je ne me trompe pas, de Bukhari, ils vont dire ça c'est le livre d'Allah, voilà le Coran, on suit le Coran en ce sens, et tout ce qui est en dehors du Coran on délaisse. Et à notre époque, enfin pas à notre époque, il y a plusieurs siècles, il y a une secte qui est apparue. On les appelait les Qur'aniyoun, les Coranistes. J'en ai rencontré. Et à notre époque, les Qur'aniyoun, ils sont en train de... Là, au 21e siècle, là, ça remonte à un mois et demi, deux mois les infos. Il y a un retour des Qur'aniyoun. Il y a certaines régions, je ne vais pas dire le nom de ces pays pour ne pas généraliser. Un pays en Asie, particulièrement, où il y a une certaine présence de ces Qur'aniyoun. Et après, c'est amusant, il y a des gens qui confondent les Qur'aniyoun avec ce qu'on appelle les salafs. Donc, c'est hilarant même. Ils disent que ceux qui se proclament manhaj al-salaf, ils ne suivent pas les hadiths, ils suivent que le Qur'an. Attention, celui qui suit que le Qur'an, il quitte le din. Je reviens au hadith de Bab, parce qu'il m'a dit, attention, viendra une époque où les gens vont dire, hadha kalamullah, ça c'est la parole d'Allah, ça on suit. Tout ce qui est en dehors, ça ne nous intéresse pas. C'est-à-dire qu'ils vont rejeter hadith. Ils vont rejeter les hadith nabawi, la parole du prophète. Ils vont dire que nous ne suivons que ce qui vient d'Allah. Et le pire, c'est que ces gens auront l'impression d'être dans le sirat al-mustaqim, dans le droit chemin, parce que légitimement, ils suivent le Coran. Mais ils oublient que وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا, ce que votre prophète, en ce sens, vous a apporté, prenez-le. C'est-à-dire, appliquez-le. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, et quand il vous a dit, ne faites pas ça, ne le faites pas. Les savants disent, ce verset prouve que toutes les paroles du prophète alayhi salat wa salam font partie du wahi. Ça fait partie des bases de la sharia. Kalamullah et kalamun nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, on pourrait aller plus loin. C'est pas le sujet, mais également les paroles des khulafa rachidin, on les assimile aux paroles du prophète sallam et on peut les appliquer comme sharia. Donc, ça me dit attention à cette époque, à une époque viendra des gens qui vont délaisser la sunna. Le prophète Ali sallat wa sallam a décrit comment ces gens-là seront dans là, comment ces gens seront dans le dans la perdition. Et comme je vous ai dit, à notre époque, il y a un retour. Wallah musta'an, pas ici, alhamdulillah, mais ça viendra aussi. Je crains que ça vienne avec la mondialisation. Il y avait certains mouvements, on voyait dans certaines régions du monde, et on ne pensait que jamais ça viendrait, et on voit, Wallah musta'an, que ça franchit les frontières. Et donc, il y a un retour justement de ces sectes coranistes qui s'apparentent un peu, ils ont fait une certaine... Wallah musta'an, c'est pas une union, si on appelle pas ça une union, ils ont fusionné leurs thèses, si on peut appeler ça des thèses, avec les Mu'tazila. Les Mu'tazila, c'est Al-Madrasa Al-Aqliya. Ça fait partie des grands fitnas, ça. Des grands fitnas de l'Aqida et dans tout. C'est des personnes qui vont essayer de rationaliser la wahi, la révélation. Faire en sorte d'apporter un ta'wil, qui est un ta'wil batil, une interprétation erronée des versets, telle sorte d'éradiquer, astaghfirullah, tout ce qu'il y a en rapport avec le ghaib, l'invisible, pour qu'il y ait une lecture logique, une lecture qui est acceptable sur le plan, astaghfirullah, rationnel. Leur esprit rationnel à eux, qui est très rationné d'ailleurs. Et donc la madrasa aqliya, les mu'tazila, ça a toujours existé. Et après, on est en train de faire un cours de l'histoire des firaq, à l'époque également, lorsque la philosophie yonan, grecque, est entrée dans le monde musulman, là aussi pas mal de grands savants, ils ont commencé à pencher un peu vers la philosophie grecque, et ils ont un peu mélangé, et ils sont allés un peu plus vers ces thèses, astaghfirullah, rationalistes, d'accord, que j'étais comprendre, et peu à peu ils ont mis un peu de côté le rêve, na'oudhu billah. Un exemple qu'on avait déjà cité dans Al-Fil, ça remonte, quand il y a, yarhamukallah, quand Allah Azza wa Jal cite la sourate Alam Tara, كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ, dans l'histoire des éléphants, lorsqu'il est question de Ababil, ces oiseaux, ils interprètent, ils disent que non, il n'y a jamais eu d'oiseau. C'est un virus. Nous, on connaît coronavirus, on connaît, je ne sais pas quel était virus, la vache folle, ou je ne sais pas quoi, mais il y avait l'éléphanovirus. Selon eux, un virus, une bactérie, qui a touché ces mammifères, et ils sont tous morts. On peut dire que ouais, c'est original comme interprétation, mais attention, c'est très grave. C'est refuter complètement la notion de rêve, parce que la nusrat d'Allah, elle est, subhanallah, regardez le parallèle qu'il y a entre fil et ababil. Ababil, ça tient dans le creux de votre main, un moineau. C'est pas un ptérodactyle, c'est comme ptérodactyle. C'est pas un aigle ou un faucon, Ababil, des petits oiseaux. Wallahu a'lam, demande si ce n'est pas les petits oiseaux qu'on voit un peu partout, Makkah aussi. Hein. Un petit oiseau. Et de l'autre côté, on a Al-Fil, mammifère, et en plus, un animal qui était gharib, inconnu des Arabes. Donc, il y avait une peur, une crainte naturelle par rapport à la vision d'un animal gigantesque qui est. Jamais vu un éléphant de près, ou pas vraiment, pas souvent, c'est au moins 10 fois un chameau, Wallahu a'lam. Et l'autre côté, l'opposition, c'est le moineau, un petit oiseau, qui pouvait tenir un caillou entre ses serres. Et la nusra d'Allah, c'est que ces moineaux ont anéanti l'armée de Abraha, des éléphants. Et que lorsque le caillou tombait, c'était pire que des obus. C'était pire que Hiroshima pour eux. Les cailloux, sur chaque caillou, Ibn Kathir, rahimahullah, il explique que sur chaque caillou, c'était écrit le nom de la cible, subhanallah. Dans cette armée, il y avait différentes armées, bien sûr, plein de personnes, de combattants, et sur chaque caillou, il y avait le nom de son destinataire. Et lorsque l'oiseau est lâché, le caillou, ça transperçait la tête et ça ressortait, akramakumullah, par le derrière de la personne. Ça transperçait, la personne mourait. Et l'intégralité de l'armée et les éléphants, ils sont tous morts en instant, quelques secondes. Le temps que le caillou, avec la gravité, au niveau, je ne sais pas, l'oiseau, il vole à combien de mètres, 50, 60 mètres, le temps que le caillou tombe. Prenez un caillou du 8e étage, lâchez, c'est combien de secondes? 10 secondes maximum. Khalas, l'armée a été détruite sans qu'il y ait effusion de sang avec les Makkis, les gens de la Mecque, sans que cela ne porte atteinte au Mabani, à la construction de Mecca, ni à la Kaaba. Parce que s'il y avait Zalzala, par exemple un séisme, la Kaaba aurait pu être endommagée. Ou si c'était à l'Arshabain, les Arshabain ont toujours existé, les montagnes autour de Mecca. Si Allah Rabbul Izzah aurait pu ordonner à l'ange des montagnes d'écraser l'armée des éléphants, mais là aussi il y aurait eu des dommages. D'accord ? Mais karam, karamullah li ahli Mecca wa li Mecca, par amour pour Mecca, il n'y a rien eu, subhanallah, et cette armée a été détruite intégralement, sauf le qaïd, j'ai plus son nom en tête, le chef de l'armée, il est, Allah Azza wa Jalla, dit qu'il reste vivant, juste suffisamment pour retourner jusqu'à Abraha. Abraha bien s'est pas fait le déplacement, et pour que Abraha voit son chef, le chef de son armée, en train de mourir, il était en train de se démembrer, il a juste rapporté, parce qu'il n'avait pas la possibilité d'envoyer un tweet à Abraha. Donc, il a eu juste le temps de revenir et d'annoncer à Abraha qu'est-ce qui s'est passé avec notre armée, et il est mort. Si je pense, soit il est mort, ou là il y avait une version qui parlait de cette personne qui a été tellement humiliée qu'il était obligé de mendier auprès des idoles de la Mecque. Quand les Mécois, ils égorgeaient des bêtes auprès de ces idoles, ils étaient obligés de mendier. Donc, c'était Zillat Tamam. Bref, voyez toute la puissance de cette histoire. Le but, ce n'est pas de raconter l'histoire d'Al-Fil, mais vous voyez, c'est une histoire remplie de sens, remplie de sagesse et de leçons pour l'ensemble de la Ummah, que la Nusra est dans les mains d'Allah. C'est un niveau de Nusra qui est proche de celle d'Ibrahim alayhi salam par rapport au feu, de celle de Yunus alayhi salam de le ventre de la baleine, de Moussa alayhi salam face à Pharaon, face à la mer, il a réalisé zalik. Et ces personnes-là, ils vont changer le ta'wil en disant qu'il n'y a jamais eu de ababil, c'était un virus. Du coup, il n'y a plus rien d'exceptionnel. Et ça, c'est Namoudaj, un exemple. Et de cette façon, à notre époque, je ne vais pas vous donner le nom de ces savants pour pas que des gens aillent écouter ce qu'ils disent. Et c'est des gens d'une éloquence. Une éloquence. J'ai écouté. Ils sont, alhamdulillah, ils ne sont pas francophones. Alhamdulillah. Mais le sous-titrage existe et ça va très vite. D'une éloquence qui dépasse beaucoup de gens, une maîtrise des versets, une maîtrise des chaînes de narration, mais ce ilm est devenu un fitna pour eux. Ils se détournent du droit chemin par ce ilm, et ces gens-là, ils vont jusqu'à renier azab al-qabr, kufr i'tiqadi, c'est par la croyance, parce qu'avec cette parole, on refute tous les ayats, il y en a beaucoup qui décrivent châtiment de la tombe ainsi que les aqidah ahli sunnah wal jama'a. La croyance de ahli sunnah, c'est que celui qui ne croit pas à un verset, ben il n'a pas cru au Coran. Celui qui refuse un verset, dit ça c'est pas possible, ça je crois pas, c'est kufr i'tiqad. Donc vous voyez, notre professeur nous a annoncé qu'à une époque viendra, et il y a eu à une époque, ces gens, les Coranistes, les Coraniyoun, et là, il y a un mélange entre les Coraniyoun et les Mu'tazila, et ils vont renier énormément de hadiths. Et donc, voilà, ikhwani fillah, ahwal, fitan. Je suis en train de penser ça encore hier. On est dans un monde rempli de fitna, ou parfois même entre les ulama, entre savants, il y en a qui décrivent l'autre, entre les courants, il y en a qui disent eux ils sont comme ça, l'autre eux ils sont comme ça. Subhanallah, on est à une époque où nos enfants, quand ils vont au collège, au lycée, Allahu Akbar, quand vous les déposez, si on les dépose, on est déjà de bons parents, ça commence bien, mais vous ne savez pas comment ils vont ressortir, et dans un an, dans deux ans, quelle sera la mentalité, tout ce qu'ils entendent, le discours, j'ai des élèves, des grands qui relatent les discours islamophobes de beaucoup de professeurs d'histoire, géographie, et c'est des discours que les élèves ne vont jamais rapporter parce qu'ils ont peur et qu'ils resteront toujours impunis. Il arrête les zalik, ce qu'ils risquent d'apprendre en étudiant la philosophie, s'ils n'ont pas la tête sur les épaules, s'ils n'ont pas eux-mêmes une bonne aqida, une bonne croyance, et les péchés dans lesquels ils risquent de sombrer avec cette émancipation, hein, Wallah Moustahan, s'ils appellent ça émancipation de la sexualité, moi j'appelle ça du libertinage. Ce libertinage qui commence dès la quatrième, troisième, et puis le lycée, hadith wa la haraj. Nos enfants, ils grandissent ce hawa de ce contexte, et on trouve parfois moyen de se taquiner de loin ou de mettre en garde les gens les uns contre les autres. Ahwal, c'est waswasa min ash-shaytan. Ash-shaytan yushriluhum. Shaytan occupe leur temps. Shaytan absorbe leur science et fait en sorte que le potentiel ilmi qu'ils ont, ils vont le dépenser dans les nizars, dans des querelles intestines, on pourrait dire, qui n'ont ni queue ni tête, si ce n'est tashghil al-waqt, occuper le temps et les empêcher d'aller vers l'essentiel. Tablir ur-risala, ballir, ya ayyuha ar-rasul, ballir. Et nous sommes les héritiers des prophètes, c'est notre travail de faire le tablir de l'essence littérale, de propager ce que notre prophète alayhi salatu wassalam a reçu de la part d'Allah azza wa jalla. On est arrivé à une époque de survie. On n'a pas un tel degré de ilm, de connaissance, où on va suivre une personne, tel savant, parce qu'on est à une époque où on a besoin de survivre spirituellement. Basse. On doit essayer de garder iman, nos a'mal, notre akhlaq, le transmettre à nos enfants et les encadrer plus que nous nous encadrons nous-mêmes. Qu'u anfusakum wa ahlikum nara. C'est ça ton travail. Arrête, va pas t'occuper des gens. Va pas chercher les interprétations ou des choses qui ne te concernent pas, Mubasharatan. Protège-toi et protège ta femme, protège tes enfants. On est à une époque de survie. Fais en sorte que quand je meurs, quand mon épouse meurt, quand mes proches meurent, ils meurent avec la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, qu'ils ne doivent aucune salat, que leur zakat soit payé, le hajj accompli, qu'ils ont pu mettre en pratique au moins quelques ordres d'Allah, quelques ayats du Coran, qu'ils ne doivent de l'argent personne, qu'ils avaient un bon akhlaq, qu'ils retournent auprès d'Allah et qu'Allah est satisfait d'eux. Basse. C'est à propos de ça qu'on aura à répondre. On est à une époque où les fitans, je pense que l'apparition d'Al-Mahdi est proche, sans le moindre doute. D'année en année, de siècle en siècle, on voit un peu ce qui se passe dans le monde. On sait qu'il y a des ashrat, il y a des signes qui sont en train de se produire, on sait qu'il y aura quelque chose un jour, sans le moindre doute. Et donc, plus on s'approche de cette époque, pratiquer le dîn deviendra difficile. Comme ça m'a dit, il y aura une époque où pratiquer la religion sera aussi difficile que de tenir une braise dans sa main. Quand le Poisson, il donne des exemples, des métaphores, des paraboles, c'est pas au hasard. Il n'y a pas de moubalara, il n'y a pas d'exagération. Le Poisson n'est pas un poète. Le Poisson ne raconte pas des fables. Ces métaphores sont inspirées d'Allah Azza wa Jal. Ce qu'il dit, c'est qu'Allah a mis de son cœur pour dire de cette façon à sa umma. Et réellement, haqiqatan, viendra une époque où rester ferme dans sa religion, ça sera extrêmement difficile. Et nous commençons à vivre cette époque. Donc on a besoin de, subhanallah, créer le lien, le muhabba. Oublier les nizars, les divergences et se concentrer sur l'essentiel, la protection du iman, aham shay. Donc, ikhwan fillah, tout ça pour vous dire qu'on est très content qu'Allah nous donne la possibilité de reprendre. Ça, c'est fadlu min Allah. Et je vous le dis, entre les différents programmes, que ce soit tafsir, Riyad al-Salihin ou Aqidah qu'on fait le mardi en ville ou à Montreuil, il n'y a rien de plus profitable, je parle pour moi en premier, que le tafsir. Il n'y a rien qui augmente le iman comme la lecture du tafsir, le Coran. Parce que ça, il y a un effet direct sur le cœur. Vous savez pourquoi? Parce que le cœur du musulman, il bat pour Allah. Il y a la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah de ce cœur. Le cœur du croyant, il est dans le droit chemin de salat al mustaqim. Et quand vous faites entrer la parole d'Allah de ce cœur, et que le cœur, il boit la parole d'Allah, la compréhension, le ta'wil des versets, ce iman, il se renforce. Parce que c'est exactement de ça que le cœur a besoin. La parole d'Allah qui a été révélée pour nous et pour chaque croyant jusqu'à la fin des temps. Donc, à la fin du mois de Sha'ban, le dernier vendredi avant le mois de Ramadan, on avait complété Al-Naba' Amma Yatasa'alun Bifadlillahi Ta'ala wa Karami. On avait donc complété le 30e juz. Maintenant, il fallait démarrer un nouveau juz ou un nouveau surah. On avait le choix, subhanallah, on réfléchissait plutôt entre suivre l'ordre décroissant. Donc on a fait le 30e, on ferait éventuellement le 29e, donc commencer par suratul mulk, tabarakalladhi. Il y avait une autre possibilité, ça aurait été de faire un surat, là, ça aurait été le choix du cœur. Le choix du cœur, ça aurait été de faire surat Yusuf, qui est un surat, mashallah, la plus belle des histoires. Ou alors, reprendre dans l'ordre chronologique, pas chronologique, dans l'ordre du mushaf, Al-Baqarah. On devait démarrer sur Surat Yusuf ce soir, mais après, subhanallah, depuis hier, je te dis que il faut faire Tabarakalladhi. D'autant plus que Surat Al-Mulk, on lit tous les soirs. On doit lire tous les soirs avant de dormir. Si je mémorise, je le lis. Combien de temps on prend pour lire Tabarakalladhi? 5 minutes grand maximum. Si vous avez la chance d'habiter un immeuble avec plusieurs étages, normalement, 3 étages, trois cas tabarakalladhi. Maintenant, il ne faut pas lier à tabarakalladhi. Non, il faut lier avec respect, tajwid, adab et minimum. D'accord ? Donc, il y a le faïda, le fait qu'on le lise tous les soirs. Maintenant, imaginez qu'avec cette lecture, et on va peut-être voir, je ne sais pas si on a un peu de temps ce soir encore, on a 37 minutes, on va voir la semaine prochaine, inshallah, les vertus de la lecture de tabarakalladhi le soir avant de dormir. Maintenant, si en plus de le lire, on a une compréhension de ce qu'on lit. Wallahi, nourun ala nour. Ça, c'est un ni'ma de la part d'Allah. C'est pour ça le choix plus cohérent, c'est, inshallah, on va démarrer le 29e juste, tabarakalladhi. Et durant la Salatul Tarawih, les Salatul Tarawih, les derniers jours du mois de Ramadan, on avait parcouru Salatul Hashr. Il y avait des versets qui nous ont vraiment impressionnés. Mais c'est des versets qu'on écoute, on lit régulièrement. Mais il y a des fois où vous écoutez un peu plus attentivement et vous sentez le poids des versets. Un verset que vous mémorisez déjà, mais quand vous l'écoutez bien, vous sentez le poids des versets. Vous dites qu'on ne peut pas passer à côté. Ça, c'est trop important. Surtout dans, il y a certains, soit dans Surat al-Qiyama ou d'autres versets qui parlent de l'au-delà, qui parlent de la résurrection, pardon. C'est des versets très forts. On se dit que le croyant qui a compris le sens de ces versets, comment est-ce qu'il peut encore désobéir Allah Azza wa Jal? Le croyant qui a compris le sens de ces versets, comment est-ce qu'il peut ne pas se réveiller Salat al-Fajr un dimanche matin sous prétexte que c'est un jour chômé? La hawla wa la quwwata illa billah. Celui qui a compris le sens de ces versets, qui a compris comment se déroulera la résurrection, comment est-ce qu'il peut regarder toutes les femmes qui passent dans la rue et les admirer de la tête aux pieds sans khashyatullah, sans éprouver une seule fois la crainte d'Allah Azza wa Jal? La solution, c'est dans la parole d'Allah. Si le cœur est connecté à la parole d'Allah, sans le moindre doute, Inch'Allah, il y aura un effet sur le cœur, augmentation du iman, et plus on comprend, plus on connaît, facilité de se détourner du mal et d'accomplir les bonnes œuvres. On va clôturer ce soir avec un hadith. On ne va pas faire le tafsir, bien sûr, on a pris pas mal de temps. Hadith de Abu Huraira, justement. رضي الله عنه إيش حديث إيه رابورتي بار إمام أحمد أبو داود النسائي ابن ماجة et comment les gens peuvent remettre en cause استغفر الله أبو هريرة dit إن قال عن الرسول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن سورة في القرآن 30 آية. Il y a un surah de le Coran qui est composé de 30 versets. Et ce surah va intercéder li sahibiha. Il va intercéder pour son compagnon. Hatta rufira lahu. Jusqu'à ce que cette personne soit pardonnée. Et hatta en arabe, ça vous montre que depuis cet instant jusqu'à. Tant que la personne n'obtient pas le maghfira, ce surah continuera à intercéder pour la personne. Et le prophète m'a dit, c'est Tabarakalladhi biyadihi al-mulk. Autre hadith de Anas ibn Malik radiallahu anhu, de quel le prophète m'a dit, suratun fil Qur'an. Il y a un surah du Qur'an qui va prendre la défense de ce compagnon, hatta adkhalathu al-jannah, jusqu'à lui faire entrer dans le jannah. C'est Tabarakalladhi biyadihi al-mulk. Et troisième hadith, j'ai dit un seul, mais on y va jusqu'à trois. Hadith de Jabir, radiallahu anhuma. Anna Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, kana la yanamu hatta yaqra alif lam mim tanzilu wa tabaraka alladhi biyadihi al-mulk. Sijda et al-mulk. Après, il y a d'autres commentaires de Taous, mais on se suffit du matin du hadith. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre autres, parmi les sourates qu'il lisait avant de dormir, c'est essentiellement Tabarakalladhi biyadihi al-mulk. Donc déjà on comprend que c'est une sunna nabawiyya, une pratique que le prophète faisait régulièrement. Il y a des fois le prophète faisait une action une fois de temps. Mais là le hadith il stipule kana la yanamu hatta, il ne dormait pas tant qu'il ne lisait pas entre autres Tabarakalladhi. On comprend que c'est une sunna qui se répétait, que le prophète faisait tout le temps. À nous de le mettre en pratique, de lire Al-Mulk régulièrement et en réalisant les vertus qu'il y a dans le fait de lire Al-Mulk régulièrement, Inch'Allah, tous les soirs avant de dormir. Et en plus, si on arrive à comprendre, subhanallah, cela nous sera encore plus profitable. Qu'Allah Rabbul Izzat nous tawfiq de comprendre ces quelques paroles et que ces paroles pénètrent nos cœurs et qu'Allah donne la possibilité de les mettre en pratique. Et la petite modification du programme qu'on était censé appliquer ce soir, mais on le fera la semaine prochaine, c'est qu'on va raccourcir le temps du programme. On va ramener à 30 minutes. Parce qu'il y a des fois, on fait 40, 45, 50. Le Coran est tellement beau qu'on aimerait, mais on essaie de voir un petit peu le facteur temps pour ceux qui viennent et pour tout ce qu'il y a autour aussi, l'organisation, ainsi de suite. Donc, on se limite à 30 minutes. Et ces 30 minutes, Inch'Allah, il y aura baraka et ça nous sera profitable. Jazakumullah khair. سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير.